Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast.
À l'aube de la COP30 à Belém, les enjeux deviennent autant environnementaux qu'économiques. Redéfinir la responsabilité sociétale des entreprises, mobiliser les financements et transformer le modèle de croissance. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler bien évidemment de la COP30, un sommet plutôt aujourd'hui qui se déroule dans l'optique bien évidemment de revoir notre hygiène mais aussi notre manière de fonctionner, notre manière d'entretenir ce climat. Et pour en parler, nous sommes avec monsieur Zine Labidine El Hosseini, expert en climat, qui également avec lui, nous allons plonger au cœur d'une conférence qui peut basculer du discours à l'action et pour les entreprises, rester en dehors ne sera plus une option viable. Bonjour et merci encore aujourd'hui de nous servir d'invité.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors sans plus tarder, comment la feuille de route Bakou-Belém Roadmap, qui vise donc à mobiliser environ 1 200 milliards plutôt d'euros par an d'ici 2035, peut-elle redéfinir les priorités économiques mondiales en matière d'investissement climatique?
D'abord, il faut rappeler que Baku to Belém Roadmap, c'est une initiative internationale qui est une feuille de route liée principalement à la biodiversité et développement durable.
Tout à fait.
Il a été adopté dans le cadre du processus de la Convention sur la diversité biologique, la CDB, des Nations Unies. Il a été créé pour guider les actions internationales sur la biodiversité entre les deux événements. Parce que, comme vous savez, les COP, la conférence des parties, organisée sous l'égide des Nations Unies, c'est la plus grande ou bien le plus grand rendez-vous au niveau international où se rencontrent les pays membres des Nations Unies, en plus des sociétés multinationales, des associations, des groupes de pression, des milliers de gens qui se rassemblent au cadre de cette conférence pour discuter de la situation environnementale mondiale, d'une part, et pour se mettre d'accord sur les mesures à prendre concernant le futur de l'humanité. Dans ce cadre, les investissements dans ce domaine sont, d'une part, très difficiles par rapport aux pays réticents au niveau de la participation à ces rendez-vous comme les États-Unis par exemple, la Chine, etc., et l'Inde, et entre les pays du tiers-monde, les pays émergents, etc., qui ont la nécessité de recevoir de l'aide pour pouvoir affronter et faire en sorte que les effets néfastes des changements ou bien des problèmes du climat ne causent pas des dégâts au niveau de l'économie de ces pays et surtout du bien-être des citoyens.
Et dans ce cadre figurait également, selon le Network for Greening, le Financial System, un retard de 3 ans dans la transition écologique pourrait faire grimper les coûts économiques mondiaux de 0,5% à 1,3% du PIB global d'ici 2030, soit donc une perte estimée à près de 1 000 milliards d'euros par an. Quelle politique concrète pourrait éviter ce scénario?
Et ces numéros peuvent augmenter encore plus, tellement qu'avec la position des pays que j'ai mentionnés auparavant, comme vous savez, le rendez-vous de Paris lors de la COP21 en 2015 et l'accord sur la convention sur le climat a été difficile, mais en fin de compte, on a réussi à rassembler le nombre des pays nécessaires pour mettre en exécution cet accord. Mais malheureusement, 2 ans après ou 3 ans après, il y avait énormément de problèmes causés par les États-Unis qui ont décidé de boycotter et de sortir de cette convention, ce qui a causé des problèmes au niveau du financement qu'on appelle financement du climat, parce que mettre des solutions viables et nécessaires pour affronter le réchauffement climatique nécessite des budgets colossaux pour assurer la transition énergétique. Le monde actuellement doit cesser de produire et d'utiliser les énergies fossiles, parce que avec l'augmentation des effets néfastes de l'utilisation des énergies fossiles, surtout les gaz à effet de serre, complique les choses et nécessite une alternative qui ne peut être acquise que par le changement radical au niveau des industries, au niveau de la consommation humaine, qui doit donner la priorité aux énergies propres, les énergies renouvelables, et aussi à faire en sorte de changer la conduite et le comportement humain dans ce domaine, parce que c'est le seul moyen pour éviter la catastrophe qui nous menace chaque jour encore plus. Ces financements, il y a un retard, comme vous l'avez mentionné, mais ce retard augmente chaque année et chaque trimestre, parce qu'on ne fait rien. Pratiquement, on ne fait rien, à part quelques pays qui sont des élèves vraiment corrects et...
Justement.
Et bien discipliné, parmi eux le Maroc, qui a tracé une feuille de route, un agenda bien déterminé au niveau, d'une part, des énergies renouvelables, au niveau de la législation environnementale nationale et le respect des conventions et des traités internationaux à ce niveau.
Et justement, comme vous venez de le souligner d'ailleurs, comme vous venez de le souligner, avec seulement 32% des pays ayant mis à jour leur contribution nationale, comment d'ailleurs ce manque d'engagement freine-t-il la mobilisation d'investissements climatiques évaluée à plus de 800 milliards d'euros nécessaires d'ici 2030?
Le problème est de trouver suffisamment d'argent pour financer ces projets. L'argent, comme vous le savez, pour les pays en voie de développement, ils ont besoin de l'aide qui vient principalement des pays industrialisés, des pays riches, dont la posture à ce niveau n'est pas claire, ou bien ils sont réticents, ou bien ils ne croient même pas à ce problème problème climatique et qui considèrent que simplement que ce n'est pas vrai. Alors que le problème est là, il persiste. Et les effets néfastes augmentent chaque jour, et on retrouve seulement des pays qui croient à leurs moyens, qui sont convaincus de faire le nécessaire pour ça. Et c'est une minorité au niveau international. Et le problème, c'est que l'Afrique, qui ne produit et n'utilise que à peu près 5% des énergies fossiles, souffre des effets de ce phénomène plus que n'importe quelle région du monde, surtout quand il s'agit de la sécheresse, quand il s'agit des canicules, des inondations dans certaines régions, et le problème qui menace les forêts principalement, parce que il faut le rappeler, la COP 30 de Belém, qui est en plein Amazonie, un des points les plus forts et l'un des priorités, c'est de prendre en considération la situation des forêts tropicales, en Brésil principalement et en Afrique, au Congo, parce que c'est les poumons du monde, c'est les poumons des de l'humanité qui sont menacées actuellement. Et c'est une fortune estimée à peu près 140 000 milliards de dollars que nous sommes en train de bousiller, que nous sommes en train de perdre à cause des mauvaises politiques à ce niveau-là, de la conservation de la forêt, du traitement que ces forêts subissent par les humains.
Et comment, d'ailleurs, la protection de ce capital naturel peut-elle générer des bénéfices économiques tangibles, selon vous ?
Principalement parce que les populations qui vivent autour et sur les revenus de ces richesses sont en train de voir leur avenir menacé. Et si on arrive à faire des politiques, à faire des stratégies capables de conserver ce patrimoine, cela va se convertir, ou bien cela sera un appui matériel, un appui financier extraordinaire, soit pour les pays, soit pour ces populations qui seront stabilisées sur leur territoire et qui verront leur richesse conservée et protégée.
Conservée et protégée, aujourd'hui également, le concept de transition juste est central à Belém. Comment concilier la création d'emplois verts, la reconversion des travailleurs des industries fossiles et la stabilité économique des pays du Sud ?
Mais la création des emplois verts, principalement, c'est pour remplacer les emplois qui seront perdus au niveau des industries polluantes et surtout des industries qui se rapportent aux énergies fossiles. Parce que avec la tendance, avec les législations, les décisions qui sont actuellement prises ou bien qui seront prises prochainement pour conserver le climat et conserver l'environnement terrestre, on doit quitter ou bien couper les liens avec tout ce qui se rapporte aux énergies fossiles pour les énergies renouvelables, ce qui implique et cela veut dire qu'il faut donner la priorité à l'économie verte et surtout à la création des emplois verts. Parce que, comme vous le savez, actuellement, le plus grand défi, c'est de créer et de stabiliser, créer des postes qui se rapportent à des activités amis de l'environnement et en même temps stabiliser les populations dans leur région pour assurer une agriculture qui sera au service des sociétés, qui sera au service des plans qui se rapportent à l'ESG, à l'environnement, à la société et surtout de la gouvernance, parce que actuellement la gouvernance à ce niveau est le principal défi qui affronte les gouvernements pratiquement de tous les pays.
Pratiquement tous les pays. Aujourd'hui également, l'adaptation climatique, on va en parler, mais aussi à quelques jours de la COP30, l'Union européenne a repoussé sa décision sur les objectifs climatiques 2035-2040. Quel impact économique aussi ce retard pourrait-il avoir sur les entreprises européennes et aussi même parfois africaines sur leur investissement vert ?
Ben, comme vous le savez, la COP30, elle est déjà entamée. Nous sommes pratiquement à quelques jours de la clôture de ce sommet, mais les Européens, quand ils ont pris cette décision, ils sont conscients qu'une bonne partie de leur investissement, une bonne partie de l'avenir de leur économique est liée au continent africain. Et puisque la conscience africaine à ce niveau, et je peux dire qu'il est bonne, qu'il est positive, grâce à quelques décisions capitales dans ce domaine. Il faut rappeler que Après la COP 22 réunie à Marrakech, il y avait une réunion dont le Maroc était l'instigateur. Sa Majesté a pris l'initiative de rassembler les leaders africains présents autour d'une conférence appelée la Conférence de l'Action Climatique sur tout ce qui se rapporte à l'Afrique. Depuis ce jour-là, l'Afrique, grâce à cette initiative marocaine, jouit d'une feuille de route, d'un programme qui consiste à réunir les efforts africains sur ce domaine et tout ce qui est nécessaire pour protéger l'économie et surtout l'agriculture africaine des méfaits et des problèmes qui se rapportent au dérèglement climatique. L'Europe peut prendre les décisions qu'elle veut, mais il sera toujours lié dans son destin, soit économique ou agricole, à l'Afrique.
À l'Afrique, bien évidemment, et l'actualité aussi est restée au cœur de cette émission. Nous allons sans plus tarder suivre ce point de l'actualité avant de revenir tout de suite avec notre invité pour la dernière question concernant aujourd'hui la COP 30 qui se déroule actuellement en Amazonie, précisément au Brésil, à Belém. Et c'est tout de suite.
Bienvenue dans Planète Business, votre minute RSE autour du monde. En Afrique, ça bouge. Au Maroc, le secteur des assurances veut jouer la carte de la transparence, séparer les branches vie et non-vie pour renforcer la confiance et la solidité du marché. Au Africa Global Impact Summit, en Algérie, les dirigeants ont plaidé pour une stratégie RSE Made in Africa. Agriculture durable, énergie propre, gouvernance locale. Une ambition claire, passer du discours à l'action. Pendant ce temps, Diaspora Insurance, présente dans 25 pays, lance sa campagne caritative 2025. 10 associations africaines recevront chacune 1000 livres sterling. Et sur la scène mondiale, les géants de la chimie et de l'industrie se réinventent. Arkema entre dans le top 100 mondial de la diversité. Mais attention au greenwashing. Les experts appellent à des actions mesurables, pas juste des promesses vertes. Il est clair que la RSE s'impose comme une nouvelle boussole économique en Afrique comme ailleurs. Les entreprises veulent désormais prouver que performance peut rimer avec conscience.
De retour avec notre invité, M. Zine Labidine El-Hosseini. Aujourd'hui encore, M. Hosseini, la dernière question qu'on aimerait vous poser, ou même l'avant-dernière question, c'est que le programme Shift soutenu par l'ONU encourage les villes à investir dans la transition locale. En quoi cette approche décentralisée peut-elle devenir un moteur économique pour les territoires et pour les PME?
Eh bien, vous savez, tout ce qui se rapporte au changement, au dérèglement climatique, doivent être traités et organisés au niveau micro-économique, micro-social, parce que les grands programmes et les grands projets ne peuvent pas résoudre les problèmes. Il faut commencer par les communes, commencer par les villes et par les agglomérations des populations au niveau le plus petit, si j'ose dire. Parce que c'est une pratique qui se rapporte à l'individu. C'est une pratique que chaque citoyen doit prendre en considération. Chaque citoyen est responsable de faire en sorte que ce fléau ne persiste pas, n'augmente pas de volume, qu'on arrive aux solutions désirées et que la société ne soit pas tellement menacée comme il est aujourd'hui, comme elle l'est aujourd'hui. Parce que, comme vous savez, quand il y a une sécheresse, c'est toute la société qui est menacée. Et si on arrive à faire une bonne gestion, à rationaliser l'utilisation, la consommation, par exemple, de l'eau, avec un programme intégré et des précautions qu'on doit prendre, surtout au niveau des ressources en eau souterraine. Alors là, en ce moment, on va aider soit les gouvernements, soit les organisations internationales en faire en sorte que l'avenir de l'humanité à ce niveau de l'environnement, de l'eau, soit sauver et préserver.
Un avenir qui se joue actuellement peut-être à Belém avec la COP 30. Et pour en parler, nous étions avec M. Zine Labidine El-Husseini. Merci encore M. El-Husseini pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes également expert climat et avec vous, nous avons aujourd'hui essayé d'explorer les enjeux et aussi les impacts environnementaux mais aussi économiques de cette COP 30 qui se déroule en Amazonie. Merci encore.
Je vous en prie, merci.
Merci également à vous de cette confiance renouvelée. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro dans votre émission Planète Business. Au plaisir.